Il ouvrit le vitrage qui donnait sur les toits et mesura du regard le saut qu'il faudrait faire pour fuir par cette route. Son esprit en éveil ne négligeait aucun détail. À telle enseigne qu'entendant sonner 10 heures à une horloge, il remonta la pendule, la mit à l'heure et lança le balancier. Ainsi, le temps marquait sa fuite sous leurs yeux. Bientôt, il s'étonna que le concierge n'apportât pas les quittances et le guetta du haut de l'escalier. En rentrant dans l'atelier, il eut un mouvement de recul et pâlit, car l'air de l'atelier était imprégné d'une odeur vague et terrible. Qu'elle s'accentua, ils étaient perdus sans recours. Aussi poussa-t-il un cri de joie quand, l'instant d'après, le père Legros frappa à la porte. « Monsieur Guiret, voilà vos papiers. »« Bravo, mon brave, » dit Guiret, « passez-moi ça. » Il feignit de les vérifier et tenta de faire l'addition, mais les chiffres dansaient devant lui. Le père Legros vint à son secours. « Être si savant et se tromper dans une addition, ça fait 2 162 francs 65. » « Voici, » dit Guiret, en lui tendant 3 billets de 1 000 francs. « Prenez 2 200 francs, la différence sera pour vous. »« Merci bien, je vais chercher la monnaie. »« Ça ne sera pas commode de changer 1 billet de 1 000 francs dans le quartier. »« Ici, les commerçants n'ont pas toujours ça dans leur caisse, et peut-être faudra-t-il aller jusqu'à la poste. »« Allez-y, nous vous attendons. »« Pas moyen, monsieur Guiret, je suis seul, ma femme est en course. » Et je ne peux pas laisser la loge, le propriétaire est strict là-dessus. Le mieux serait que vous y alliez, ou monsieur Fred. Fred s'offrit, Guiret dit en lui faisant signe de rester. Non, monsieur Fred est souffrant et ne doit pas sortir par ce froid. Moi, j'attends quelqu'un. Alors, c'est l'affaire d'une petite demi-heure, la bourgeoise ne reste pas longtemps aux provisions. Contrariant, très contrariant, grommela Guiret. Notre train part dans 1 heure et n'attend pas. Sans compter qu'il y a cette malle à descendre, ça nous fera perdre encore 10 bonnes minutes, en admettant que votre femme soit exacte. On peut encore s'arranger, proposa le concierge. Je n'ai qu'à la descendre maintenant et la mettre dans le corridor. En revenant de chercher la monnaie, je retiendrai un taxi, et vous n'aurez qu'à prendre au passage votre argent, vos quittances, et à faire charger vos bagages. Comme ça, il n'y aura pas de temps perdu. Laisser la malle dans le corridor. Cette seule pensée fit frémir Guiret. Tant qu'elle était près de lui, il se sentait en sécurité relative. Le péril commencerait à la seconde où, cessant de la surveiller, n'importe qui pourrait la toucher, la soulever, la sentir. Il refusa donc, sous prétexte qu'elle contenait des objets importants, et inventant une histoire de notes destinées à un gros travail et dont la perte aurait pour lui les plus fâcheuses conséquences. « Comme vous préférez, » dit le père Legros, « on aurait gagné du temps, et ça m'aurait épargné un voyage. Enfin, à tout à l'heure. » Fred s'était remis à arpenter l'atelier. Guiret jugea indispensable de le rassurer, quoique lui-même eût besoin d'un appui moral. Sa tension nerveuse risquait à tout instant de tomber et de le laisser anéanti au moment décisif. Il lui frappa sur l'épaule. « Tu vois, tout s'arrange très bien. Pour que le vieux se hâte, je lui ai dit que notre train partait dans 1 heure. Mais ce n'est pas vrai. Il ne part qu'à 10h35. Nous avons donc plus de temps qu'il ne nous en faut. » « Plus de temps, » murmura Fred. « Plus de temps. Alors descendons, sortons. » Dans le chaos de ses pensées, une seule subsistait, d'une ténacité féroce, sortir d'ici, s'éloigner d'ici, mettre de l'espace, de l'air, entre lui et cette malle qu'il ne voulait pas voir, et sur quoi, malgré lui, ses yeux demeuraient attachés. « Tu es fou, » jeta Guiret. « Tu ne vas pas me faire user ma salive à te répéter 100 fois que tu ne dois pas bouger d'une semelle. Tu te souviens de ce que j'ai dit ? Un mot, un geste, un sursaut, et nous sommes pris. « Qu'est-ce que j'ai dit ? » balbutia Fred. « Ai-je encore parlé ?» Il semblait d'instant en instant perdre le contrôle de ses actes et de ses pensées même. Guiret le poussa rudement, d'autant qu'on entendait des pas dans l'escalier. Par un revirement bizarre, Fred ne s'en montra ni surpris ni inquiet. et se mit à parler d'un ton tranquille. Pour la seconde fois, Guiré lui intima l'ordre de se taire. « Pourquoi veux-tu que je me taise ? » questionna-t-il avec un entêtement d'enfant. « Tu n'entends pas qu'on monte ? » lui souffla Guiré. « Eh bien quoi, on monte, il y a des gens dans la maison. »« Veux-tu te taire ?» gronda Guiret, plié en deux comme un chat prêt à bondir. « Ah ça, dit Fred, mais c'est le père Legros avec nos quittances. » Son ton était tranquille, son attitude merveilleusement calme. « Non, chuchota Guiret, d'une voix à peine distincte. Ils sont deux, peut-être trois. » Fred porta les mains à sa gorge et faillit se laisser choir. Cette panique fouetta l'énergie de Guiret. Ce coup-ci, il ne s'agissait plus de ruser, de gagner quelques secondes, mais de défendre sa peau de n'importe quelle manière. Il eut encore l'espoir que les pas allaient s'arrêter à l'étage inférieur, mais il entendit qu'on traversait le palier, qu'on continuait à monter. Dans son épouvante, un éclair de lucidité passa, qui lui remit en mémoire le nombre de marches, 23. Ainsi, il put, par un jeu incroyable de l'esprit, les compter une à une. Quand la dernière résonna sous les talons, il empoigna une bouteille à demi pleine qui se trouvait à portée de sa main, la brandit et se colla contre le mur du côté opposé au battant. On frappa à la porte, il ne broncha pas. On frappa une seconde fois, même immobilité. Une voix dit « Ouvrez, on nous a répondu que vous étiez là !» Il respira. Ce n'était pas le ton d'agent de la sûreté, eux n'auraient pas pris tant de détours. Il fit signe à Fred de ne pas avoir peur, et déposant la bouteille qu'il brandissait, il ouvrit. « Monsieur Guiret ?» demanda un monsieur suivi de deux hommes en entrant. « C'est moi, vous désirez ?»« Je suis, dit le visiteur, maître Marbois, huissier. » Un reste d'effroi étranglait encore Guiret. En entendant ce nom et cette qualité, il sentit retomber le poids qui étouffait son cœur. Mais il eut encore besoin de quelques secondes pour se détendre tout à fait. Et l'huissier dut répéter son nom une seconde fois. Alors seulement, ses pensées se dégageant du chaos, il répondit « Monsieur Marbois, huissier, parfaitement. » L'officier ministériel avait posé son chapeau sur la table et déplié sa serviette. « Je viens ici pratiquer une saisie en vertu d'un jugement rendu contre vous le 6 décembre dernier à la requête de messieurs Bardier et Gordane. « Êtes-vous en mesure de payer ? Cela fait 3616 francs, avec les frais. » Fred fouilla dans sa poche. Guiret le cloua sur place d'un regard. « Non, monsieur. Je vais donc pratiquer la saisie. »« Faites, » dit Guiret. Le recors s'assit et étala devant lui une feuille de papier timbré. L'huissier commença à haute voix l'inventaire. « Une armoire normande à deux portes. » Une table de travail, une bibliothèque avec glace, un divan, trois chaises canées, deux chaises velours, deux fauteuils, un lustre bronze doré. Appartient au propriétaire, observa Guiret. Bon, rayé. Ajoutez coussins, rideaux, tableaux et gravures. Aucun d'eux n'a une valeur spéciale. Aucun, répondit Guiret avec un sourire ironique. C'est tout pour ici. Y a-t-il d'autres pièces ? La chambre de mon ami et la mienne. L'huissier fit signe au recors de le suivre. Fred s'interposa. « Je ne veux pas qu'on entre chez moi. » Guiret l'écarta. « Passez, monsieur. » Dès qu'il eut disparu, Fred répéta, cherchant à le suivre. « Je ne veux pas. Vas-tu te taire, imbécile ? » murmura Guiret. « Ils vont tout prendre, vendre mes affaires. Et puis après ? » Qu'ils inventorient tout, qu'ils bavardent tout s'ils veulent, mais qu'ils partent. Nous n'avons qu'à payer, j'ai de l'argent plein mon portefeuille. Et puis quand tu l'auras donné, qu'est-ce qu'il nous restera pour prendre le train et vivre à l'étranger ? Déjà 2000 francs ont filé pour le propriétaire, 50 louis à Marousse. L'huissier revenait. « Voici, monsieur, » dit-il en tendant la feuille à Guiret. « Veuillez signer. » Guiret prit la plume d'une main ferme. Il allait apposer sa griffe quand l'huissier se ravisa. « Une seconde. Une chose que nous n'avons pas mentionnée. »«
Quoi donc ?»«
Ceci. » Il désignait la malle du bout de sa canne. Guiret dit d'un ton détaché.
« C'est notre malle. »
« Voulez-vous avoir l'obligeance de l'ouvrir ?» La question parut surprendre Guiret.
« Pourquoi ?»«
Parce qu'elle contient des objets qui vous appartiennent et dont je dois faire l'inventaire, comme de tout ce qui est ici. »
« Il n'y a là que des livres et des instruments, » objecta Guiret, embarrassé.
« N'importe, je dois les mentionner. »
Guiret essaya de discuter.
Nos livres, comme nos instruments, ne peuvent être touchés par une saisie. Ils constituent nos outils de travail, et de même qu'un lit, une table, une chaise échappent aux créanciers,
c'est exact, mais il m'appartient précisément de m'en assurer.
Puisque je vous affirme, dit Guiret, qui commençait à s'énerver,
ne perdons pas de temps, voyons, répliqua l'huissier.
Ah ça ! Grommela Guiret, presque menaçant, et du ton d'un homme qui ne tolère pas qu'on mette sa parole en doute. Ce fut le tour de l'huissier de le prendre de haut. « Cette discussion est bien inutile. Si ma présence et mon insistance vous gênent, vous pouviez vous épargner l'une et l'autre en payant ce que vous devez. »
Guiret se redressa.
« Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. »«
Je vous prie, pour la dernière fois, d'ouvrir, » dit l'huissier.
« Et si je refuse ?» défia Guiret.
« Étant ici en vertu d'un jugement exécutoire, je prierai le commissaire de police de m'assister et de requérir un serrurier. »«
Allez donc le chercher !» s'écria Guiret. « Devant lui, je verrai ce que j'aurai à faire, mais à vous, je refuse, et je vous interdis de porter la main sur ceci. »
Il s'avançait, blême de rage et de peur. L'huissier le tint à distance d'un geste et, s'adressant à son employé,
« Il suffit, descendez, je vous prie, et dites à monsieur le commissaire de bien vouloir me rejoindre ici. »
Pendant une seconde, Guiret avait cru de bonne tactique d'éloigner ses gens et résolu de profiter de leur absence momentanée pour fuir avec Fred. En voyant le recors se diriger vers la porte et l'huissier s'asseoir, il jugeait la situation grave. La fuite devenait ainsi impossible. Il changea donc d'attitude.
« Une minute, et si je paye ?»«
Si vous payez, j'annule le procès-verbal de saisie. »«
Et vous n'ouvrirez pas cette malle ?»
Il avait prononcé ces derniers mots d'une voix sourde, avec une telle anxiété que l'huissier le considéra et prit un temps avant de répondre.
« Non, je n'ouvrirai pas. »«
C'est bien, » dit Guiret, « je paye. » Il chercha dans sa poche, mais ayant déjà prélevé l'argent de Marousse et celui du propriétaire, il la trouva vide. Une seconde, la sueur coula sur son front. Aussitôt, reprenant ses esprits, il se souvint que Fred avait sur lui le reste de leur fortune, et il lui dit
« L'argent, Fred !»
Mais, balbutia Fred, en défendant son bien, une main appuyée sur son veston,
« C'est à moi !»«
Donne !» ordonna Guiret.
« Tu sais bien qu'il me le faut, que nous en avons besoin, » murmura le jeune homme.
Pourtant, il retirait lentement le portefeuille de sa poche.
Guiret le lui arracha. « Vas-tu me le donner à la fin ?»
Fred ne résista pas, tout en répétant, obstiné,
« Tu l'exiges, mais tu as tort, nous en aurons besoin. »
Guiret ne l'écoutait pas et fouillait parmi les billets.
« Combien vous dois-je ? »
3 310 francs, avec les frais, répondit l'huissier. Guiret trouva la force d'ironiser.
La justice n'est pas pour rien.
Mais quand il eut fait et refait son compte, il s'aperçut qu'il n'avait que 3 000 francs. Alors il proposa.
Prenez toujours ceci, je vous enverrai le reste.
L'huissier refusa.
Tout ou rien, il m'est impossible d'accepter un acompte.
« Puisque je m'engage à vous verser le reste demain, ce soir. »«
J'ai des ordres formels. Du reste, cela n'a pas d'importance. Puisque vous serez en mesure de payer, dites-vous que, dans quelques heures, Vous n'aurez qu'à passer à l'étude, laissez faire la saisie, vous aurez encore 24 heures avant la vente. Je jetterai simplement un coup d'œil dans cette malle et puis... Non, non, balbutia Guiret, c'est impossible. L'affolement le gagnait. Ainsi, pour une différence de quelques centaines de francs, ils allaient se perdre au moment où ils se croyaient sauvés. La pensée de sauter sur cet homme et de l'étrangler lui traversa la tête. Mais, voyant le recors debout près de lui, il se rendit compte de la folie d'une telle entreprise. Au premier geste qu'il tenterait, tous deux se jetteraient sur lui. Le raisonnement s'imposa donc à son esprit avec une rapidité effrayante. Allait-il, écrasé par la lutte, perdre pied, se trahir, par dégoût, par fatigue ? Brusquement, il se frappa le front. « Que suis-je bête ? J'ai ce qu'il faut ! J'ai donné un billet de 1000 francs à changer à notre concierge. Il va me rendre la monnaie. Fred, descends vite et dis au père Legros de te remettre. » Fred se rua vers la porte. Guiret sentit quel danger il y avait pour lui à ce que son complice trouvât, seul, la route libre devant lui, et se ravisant soudain. « Non, pas toi, reste, j'y vais !» Il avait jeté cela avec une telle fièvre, son visage était devenu si pâle, que, le voyant partir à grandes enjambées, l'huissier glissa à l'oreille de son recors. « Suivez-le donc !» Guiret entendit qu'on marchait derrière lui, et ricana. « Vous avez peur que je me sauve, que je me tue !»« Et pourquoi vous sauveriez-vous ? Pourquoi vous tueriez-vous ? » dit l'huissier. « Oui, pourquoi ? » mâchonna Guiret en descendant. Fred était revenu au divan, la tête basse, comme un chien qui craint la cravache. L'huissier le dévisagea longuement. Il supporta cet examen silencieux. Au bout d'un instant, il se leva, alla jusqu'à la porte, l'ouvrit, la referma et colla son oreille contre le bois. Ensuite, il tira le store, fit encore quelques pas d'une allure saccadée, s'approcha de l'huissier et lui fit signe d'approcher. « Vous voudriez bien savoir ce qu'il y a dans cette malle. »« Pouf !» dit l'huissier. Fred se mit à rire. « Si, si, vous voudriez le savoir. » Et vous avez raison, car c'est une chose curieuse, en vérité. » Déjà, il étendait la main. Aussitôt, sautant à une autre idée, il se planta tout droit, fixant sur son interlocuteur un regard d'une acuité singulière. « Vous croyez que je n'ai pas le sou ? Oh, il peut sembler ainsi, mais ce n'est qu'une illusion. Je suis riche, très riche. Et si je ne paye pas, c'est que ça ne me convient pas. « Si je voulais, ah, si je voulais !» L'huissier l'écoutait sans l'interrompre. Fred poursuivit. « Monsieur, j'ai de l'argent à ne savoir qu'en faire. De l'argent, et ça, tenez !» Il plongea la main dans sa poche et en tira une poignée de bijoux. « Qu'en pensez-vous ? Ce collier est-il joli ? Et cette bague ? C'est sa bague préférée. » Et celle-ci, et cette autre, mon cher, j'en ai tant et tant que je ne les compte même plus. » Il les faisait sauter d'une main dans l'autre et riait d'un rire saccadé qui secouait ses épaules. « Ah, hein, c'est épatant ! Moi, Fred, riche, et vous, vous qui vous imaginez ?» Avec une soudaineté déconcertante, il pirouetta sur les talons et reprit, cassant. Et puis, au fond, ça ne vous regarde pas. Je n'ai pas de compte à vous rendre. D'abord, qui êtes-vous ? Oui, je sais, vous prétendez être un huissier, mais ce n'est pas vrai. Je vois qui vous êtes. Vous êtes... Il avait articulé ces derniers mots avec angoisse. Il n'acheva pas sa pensée et reprit, familier. Vous me plaisez, vous avez l'air d'un brave homme. Aussi vais-je vous faire voir quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne faudra le dire à personne, surtout à Guiret, il me l'a défendu, et s'il savait jamais... Mais il ne saura pas, vous me le promettez. Des livres dans cette malle, quelle blague, c'est bien plus drôle, approchez. » En un tournement, il fit sauter les courroies, ouvrit la serrure, et dit, un doigt sur les lèvres, le visage soudain calme, la voix basse et très tendre. Pas de bruit. Chut ! Elle dort. Je vais vous la montrer. Elle est là. Vous allez voir comme elle est jolie. Il souleva le couvercle avec lenteur. Une bouffée horrible leur monta au visage. Et le corps apparut, replié, marbré de taches, troué près du sein d'une blessure dont les lèvres bleuissaient déjà. L'huissier recula en poussant un cri. Fred se mit à rire.
Mais quoi ? Mais quoi ?
À la même seconde, Guiret poussait la porte, les billets froissés à la main. En entendant le cri, en voyant la malle ouverte, il rugit. « Ah, canaille !» Et, saisissant son revolver, il tira deux fois. La première balle se perdit, la seconde atteignit Fred en pleine poitrine. Alors, Guiret bondit en arrière, cherchant à fuir.
« Arrêtez-le !» hurla l'huissier.
Le recors, qui achevait de gravir les marches derrière lui, l'empoigna. Il tenta de se dégager, mais l'homme tenait bon. Fred, effondré sur les genoux, hoqueta.
« L'assassin, pas moi, lui !»
Alors, brusquement, passant de la frénésie à la soumission la plus complète, laissant glisser l'argent entre ses doigts, Guiret alla en titubant s'appuyer contre la table, et d'une voix basse, si basse qu'on l'entendait à peine, envahi du désir de s'accuser, de redire tout haut l'horrible nuit qu'il répétait tout bas depuis 30 heures, il commença. Il dit la vérité. Ce n'est pas lui, c'est moi. Voilà comment la chose s'est passée.
Et puis je m'en foutais, donnez-moi, avant de mourir, une dernière fois. Du gris que dans mes pauvres doigts, je le roule. C'est bon, c'est fort, ça monte en moi, ça me saoule. Je sens que mon âme s'en ira, moins farouche, dans la fumée qui sortira de ma bouche.
Maurice Level. La malle sanglante. Lu par Vincent Delépine pour littératureaudio.com.